Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne. Je suis en direct de la Californie. Je ne suis plus à Indian Wells, mais j'ai pu profiter du Tennis Paradise. Et Hugues, tu m'avais averti que ça allait être spectaculaire. Et Nico, tu me demandais, avant qu'on entre en onde, si c'était en deçà de mes attentes, égal à mes attentes ou au-dessus de mes attentes. C'était absolument au-dessus de mes attentes. Je savais que c'était beau, mais c'est absolument fantastique. Tout ça pour vous dire que, Nico, comment ça va, toi, dehors, dans le chaud Québec?
Ben, je me ferme les yeux, je suis en Californie.
Ah, bon, voilà.
Mentalement, je suis là. Je suis avec toi, Alex.
Ben, je l'apprécie. Merci. Hugues, comment te portes-tu en direct du parc Jarry?
Ouais, au Centre national où un autre ITF 25 000 se met en branle aujourd'hui du très, très haut niveau de tennis. Et nos deux favoris, Gabriel Diallo et Alexis Gallarneau, sont en compétition cette semaine. Donc, on va leur parler durant ces matchs ici. Donc, je me console un peu de ne pas être Indian Wells avec toi, mon cher Alex. Mais évidemment, quand je regarde le panorama du cours central d'Indian Wells, des montagnes derrière, le désert de la Californie, de l'Arizona, pas très loin. C'est un de mes endroits préférés au monde. Donc, je suis tellement content pour toi que tu sois là-bas et j'ai hâte qu'on en parle aujourd'hui.
Ouais, ben on en parle. Et
ça, Hugues, ça, parce qu'il n'a jamais été à Saint-Jérôme.
Exact, exact. Bon, on en reparlera un peu plus tard d'un peu tout le stade, l'environnement, etc. Là, je pense que ça vaut la peine, mais on va d'abord avant tout parler de tennis. Mais Hugues, je voulais te dire que toi, présentement, tu es dans le Tennis Paradise 2.
Oui, le Tennis Paradise du Québec, on peut dire ça. Puis il fait beau, c'était tellement beau ce week-end dimanche, je te manquais ça, ça ressemblait vraiment au printemps hier, donc on est du bon côté de la pente. Là.
J'aurais tellement voulu être là.
Mensonge!
Je crois pas.
Messieurs, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans les premières journées du tournoi. Si vous le voulez bien, messieurs, on va commencer avec Denis Shapovalov parce que Denis Shapovalov, son tournoi, il est terminé, du moins en simple. Je ne sais pas trop quoi penser de ce match-là. J'étais dans les gradins et je suis vraiment confus. Je vais vous laisser donner votre opinion sur ce que vous en pensez. Hugues, je commence avec toi. Ça a été quoi ta perception de ce match-là et qu'est-ce que ça te dit peut-être pour ce qui s'est fait depuis le début de la saison et ce qui s'en vient pour Denis Shapovalov?
Il jouait tout d'abord contre Hugo Humbert, qui était un très bon joueur, qui a déjà été top 20. On l'a vu à Granby l'été passé. On sait qu'il y a eu une période COVID difficile. Il a beaucoup glissé au classement. Donc, son classement actuel ne reflète pas la qualité de son jeu. Mais je pensais quand même que Denis irait chercher ce match-là. Je pense qu'il n'aime pas jouer contre les gauchers comme lui, Denis. Hugo Humbert est un très bon gaucher. Mais je suis déçu de cette performance de Denis. On pensait après la Coupe Davis et quelques bons flashs cet automne ou l'automne dernier dans la tournée asiatique que ça irait mis un peu mieux, mais je l'ai senti un peu perdu, Denis, et je sens qu'il ne retrouve pas ses émotions positives. Il retombe dans un registre plutôt négatif en termes d'émotions et on sait qu'il carbure aux émotions. Et je suis un petit peu inquiet là, de sa glissade au classement. On sait qu'il est passé de la 20e position en début d'année à la 30e au classement ce matin. Donc, j'ai pas été très impressionné par sa performance au premier tour, à son premier match contre Hugo Humbert.
Nico, commentaire sur cette performance de Chapeau?
Ouais, tout d'abord, je trouve intéressant le point de Hugues sur le duel gaucher-gaucher. Là, je fais une petite brève technique. Là. J'ai plusieurs amis gauchers qui me disent qu'il n'y a rien de pire que d'affronter un gaucher. Nous, on le sent en tant que droitier parce que la game est complètement différente, mais imaginez un gaucher qui a l'habitude de jouer contre des droitiers, qui là se retrouve contre un gaucher, donc la game est encore différente, mais les tactiques des gauchers, les gauchers les connaissent. Donc, c'est une espèce de match miroir qui est vraiment pas évident, donc je trouve ça intéressant que Hugues le souligne. Secondo, Chapeau, corrige-moi si je me trompe les gars, mais de ma perspective, j'ai regardé une partie du match, c'est pas qu'il joue mal, c'est que j'ai l'impression qu'il manque une clé dans son jeu. Il manque ce je ne sais quoi qui va leur faire repartir parce qu'ultimement, puis Alex, je sais que t'en as parlé un peu sur Twitter, Chapeau comme, ne joue pas, c'est juste que ses affrontements, il est malchanceux dans ses tableaux, dans ses tirages. Depuis le début de la saison, c'est pas évident, il n'a pas de passe droit. Et je pense que du moment où Chapeau, je continue de croire et je persiste et je signe que Chapeau connaîtra une bonne saison là, lorsqu'on fera le bilan au mois de novembre et décembre, Mais jusqu'à maintenant, il ne joue pas mal, mais ça va prendre cette petite étincelle, cette petite victoire en tie-break, cette petite sortie d'un top 10, d'un top 15 pour le ramener à l'avant-plan. Parce que comme Hugues le dit, jusqu'à maintenant, c'est, entre guillemets, décevant, mais il est capable de tellement plus. Puis il n'est pas si loin que ça, je pense, de l'objectif ultime.
Exact. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce match-là, messieurs, c'est un peu ce que Hugues notait, pas nécessairement le manque de combativité, mais un peu le manque d'émotion qui est caractéristique du style de jeu de Chapovalov. Et bon, c'était à un certain moment dans le match presque inquiétant où on se disait, bon, c'est peut-être un nouveau Chapovalov qu'on a sur le terrain, mais en même temps, je pense que c'est presque inquiétant d'une certaine manière de le voir un peu fade au niveau des émotions, je vais dire comme ça. Et là, la question que je pose, c'est, bon, qu'est-ce que ça dit pour l'avenir? Parce qu'il y en a certains qui ont dit, bon, il faudra qu'il fasse du ménage autour, dans son entourage. C'est peut-être le temps pour un changement d'entraîneur. Nico, tu le disais, bon, moi, son début de saison, je le trouve loin d'être catastrophique parce qu'il n'a pas été chanceux dans ses tirages au sort ou dans les adversaires qu'il a perdus. C'était à peu près tous des bons joueurs. Et la défaite contre Michael Moore, là, qui était, peut-être un peu plus discutable, mais pour le reste, ce sont tous d'excellents joueurs, là, des Djokovic, des Hurkacz, etc. Hugo Humbert, tu disais, Hugues, c'est pas le dernier venu non plus.
Non, très bon joueur.
Alors, pour moi, c'est pas apaisé sur le bouton panique. Par contre, je me questionne sur, c'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe? Peut-être que c'est nous qui, overthink ce qui se passe présentement avec Chapovalov. Là. Peut-être que c'est nous qui analysons un peu trop, mais j'ai noté, moi aussi, ce manque d'émotion-là, ou en tout cas, ce moins d'émotion-là qui est tellement caractéristique et qui l'a tellement galvanisé dans le passé. Alors, j'ai bien hâte de voir. Nico?
Mais les gars, souvenez-vous que Chapo, c'est le genre de joueur, on le sait, c'est plus un secret, c'est un joueur émotif. Ça va y prendre un match, une semaine, un seul tournoi pour, je pense, repartir la machine. Souvenez-vous, là, c'est l'exemple le plus banal, puis c'est peut-être un exemple dépassé, mais ce match, ce fameux match où on l'a découvert contre Nadal à la Coupe Rogers à l'époque, il n'était presque rien avant ça. C'était un jeune prometteur sans plus, et dès qu'il y a eu cette étincelle, il est parti comme jamais. Je pense que ça va prendre ça, que ce soit à Miami, que ce soit même sur terre battue, qui n'est pas sa surface de prédilection, mais pourquoi pas un match surprise où il explose et que le reste de la saison devienne ce à quoi on s'attend pour Chapovalov.
Et l'autre chose qu'il fallait garder en tête dans le cas de Denis Chapovalov, et c'est à mettre en perspective, oui, il avait une fiche gagnante contre Hugo Humbert, mais le seul match qu'ils avaient disputé les deux sur dur, ben c'est Humbert qui l'avait gagné. Alors, est-ce que Humbert a un certain avantage sur dur face à Chapo? Ben pour l'instant, en tout cas, force est d'admettre que c'est le cas. Les trois victoires de Chapo étaient survenues sur terre battue. Enfin, je ne sais pas si c'est super significatif, mais il reste que c'était déjà à l'avantage d'Humbert à ce niveau-là. Bon, par contre, on l'a vu jouer en double avec Félix. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé là, avant qu'on saute justement à Félix de cette dynamique-là, Chapo et Félix ensemble en double. Nico?
Ce que j'aime de cette paire-là, évidemment, les deux jouent un peu moins de double parce qu'on sait qu'ils mènent leur carrière en simple et c'est très bien comme ça. Mais c'est toujours bénéfique pour des tournois comme, par exemple, la Coupe Laver, comme la Coupe Davis. Oui, c'est peut-être un seul match. Ils vont peut-être en jouer deux ou trois ou quatre maximum d'ici à ces grands tournois. Mais c'est un peu comme le vélo, le double. Je pense que ça se perd vraiment jamais. Là, je pense que ça prend quelques points pour on est de retour sur la track. Mais je pense que c'est toujours bénéfique. Là, puis je sais que les deux n'ont pas de grands espoirs de remporter peut-être ces tournois-là en double parce qu'évidemment, ils misent sur leur carrière en simple. Mais j'aime voir ces échanges. Puis Alex, tu étais là, tu as pris des super belles vidéos, des belles photos, tu as pris des stories. Puis la chimie avait l'air d'être au rendez-vous. Puis les deux gars avaient l'air plus de jouer que de travailler cette journée-là, je pense. Corrige-moi si je me trompe.
Non, t'as 100% raison. Il y avait beaucoup de sourires sur le terrain, beaucoup de plaisir entre les deux sur le terrain également. Puis tu sais, tantôt, on parlait de l'émotion de Chapo. C'est peut-être une chose comme ça, tu sais. Là, ils sont encore de finale parce qu'ils ont eu un espèce de...
Walkover.
Walkover, voilà, ils ont déclaré forfait. Ouais. Tu sais, s'il fallait qu'il fasse quelques tours encore dans ce tournoi-là, ça pourrait peut-être être un élément qui pourrait rallumer le feu de Chapovalov.
Oui, je pense que Félix aura un effet positif sur le moral et les émotions de Dennis, parce que bon, ils ont vécu des grands moments ensemble, notamment en Coupe Davis. Moi, j'ai beaucoup aimé cette victoire au premier tour contre cette équipe de jeunes All-Stars que sont Ben Shelton et Alger Rooney. Là. Donc, c'était le fun. Ils ont gagné, évidemment, c'était pas une grande équipe de double. Là. Ils ont battu assez facilement. Je crois que c'était 6-3, c'est ça, le score. Ouais, c'est ça, un 6-3. Walkover contre Cameron Norrie puis Midler. Donc là, ils se retrouvent maintenant en quart de finale. Et je pense que ça va être une bonne chose, cette série-là, pour Dennis. Par contre, si Félix va loin dans le tournoi en simple, il faudra voir s'il va se rendre jusqu'au bout en double. Il y a des décisions qui sont prises des fois quand on se rapproche du carré d'as, mais je pense que c'est bénéfique qu'ils jouent ensemble. Puis, ben voilà, espérons que ça va être positif. Je n'ai pas envie qu'on s'étende trop sur Dennis. On a hâte de le voir mieux contrôler, je dirais, ses prestations en ce moment. Je suis sûr que lui aussi est déçu. Puis, factuellement, il est quand même passé de la 20e à la 30e position depuis le début de l'année. Donc, il doit avoir quelques éléments à redresser.
Oui, ça, c'est sûr qu'il faudra gagner avec plus de régularité s'il veut revenir près du top 10, là, ça, c'est certain. Bon, maintenant, allons à Félix. C'est quand même une entame intéressante dans son cas. Vous avez pensé quoi de ce premier match-là qui a été, je vais dire, compliqué, et je pense que c'est un euphémisme.
Ah oui. Je peux y aller, Alex. Ouais, écoute, Pedro Martinez, on ne parle pas du joueur de baseball, là, on parle du joueur de tennis qui est arrivé sans complexe face à Félix. Le break d'entrée, le premier set, les gars, a duré 1h34. C'est la durée d'un match complet de 2-3. Là. Ça a été compliqué pour Félix. Encore une fois, il s'est bien battu. Je suis content qu'il ait passé à travers, qu'il a trouvé une solution pour réussir à aller chercher le premier set, 7-6 au tie-break, 6-4 dans le deuxième. Match compliqué, mais encore une fois, on dirait presque à chaque tournoi, des entames de tournois sont souvent compliquées pour Félix. Puis on dirait que les gars le savent aussi. Ses adversaires le sentent qu'il était un peu moins détendu à ses premiers matchs, un peu plus crispé. Et ça a été plus compliqué. Son pourcentage de première balle était plus bas qu'à l'habitude. Donc, ses jeux de service n'étaient pas aussi rapides que d'habitude, d'où le 1h34 du premier set. C'était un peu plus compliqué, mais il a trouvé une façon de passer. C'est ce qui est important. Il joue contre Cerundolo aujourd'hui. Ça devrait mieux se passer.
Oui, ce qui m'a marqué, par contre, et ce qui était inquiétant dans particulièrement le premier set, c'est le manque d'opportunisme en balles de bris. Là. Un en 15 balles de bris, c'est énorme dans un set. Et d'une certaine manière, il est chanceux chanceux, je vais le dire comme ça, il a quand même gagné le match et gagné le set. Mais de façon générale, tu préfères closer le deal avant, comme on dit, n'est-ce pas, Nico?
Oui, puis. Je suis content qu'on parle de Félix, les gars, parce que je vous remets en contexte. Hier, je préparais un petit souper pré-Oscar, là, une petite recette de pâte mexicaine avec sauce taco et salsa. Et je reçois un appel de mon ami Damien, qui travaille chez RDS, que je salue par ailleurs. On voulait parler de tennis, il voulait parler de tennis, parce qu'on aime tous les deux Félix, on aime voir Félix. Ça fait quelques fois qu'on se texte et qu'on se dit « Félix, c'est compliqué. Félix, il est plate cette année parce qu'il avait tellement un bel air d'aller l'année dernière. » Mais il me rappelait, les gars, puis je tends souvent à l'oublier, Alex, tu le sais plus que personne d'autre, Félix n'a que 22 ans. Et mon ami Damien, qui travaille chez RDS, est statisticien. Il est sorti des statistiques qui démontrent que sur Medvedev, qui est le joueur de l'heure présentement, Félix a une longueur d'avance au même âge. D'autant plus qu'il m'a fait réaliser, puis je lui donne raison encore une fois, on en parle souvent au podcast, les joueurs sont meilleurs de plus en plus. Et la différence entre l'élite et disons le top 50, le top 100 est de plus en plus restreinte. Et lorsqu'on s'attarde à ce tournoi d'Indian Wells, et c'est le cas depuis le début de la saison, on se rend compte que les premiers tours sont difficiles pour de plus en plus de joueurs. On a vu Taylor Fritz qui en a arraché au début de la semaine. On a vu Casper Ruud qui s'est fait sortir. Donc je pense que oui, c'est peut-être inquiétant dans une certaine mesure pour Félix, mais il ne faut pas oublier que le circuit est de plus en plus compétitif et qu'évidemment, il y aura plus de difficultés puis que Félix, en tant que sixième, septième meilleur joueur mondial, se doit de closer, pardonnez-moi l'expression, ses matchs plus rapidement. Mais c'est une question de contexte dans lequel, je pense, plusieurs joueurs doivent se reconnaître parce que c'est de plus en plus compliqué de gagner des matchs de tennis, surtout lorsqu'on vient d'avoir 22 ans.
Quand tu disais il est en avance sur Medvedev, c'est en termes de titre?
En termes de classement, en termes de titre. Si on compare les deux carrières, Medvedev à 22 et Félix à 22, Félix est en avance sur le Russe.
Ça, c'est intéressant quand même. Oui, c'est vrai qu'il est encore jeune. Et bon, on en parlait il y a une semaine ou deux. Là, il a vraiment pas un début de saison catastrophique. Et de toute façon, c'est la marque des bons joueurs d'être capable de gagner des matchs quand c'est plus compliqué, quand tu n'es pas à ton sommet, quand rien ne fonctionne. Puis, ben, rien ne fonctionne. De façon de parler, là, quand tout ne va pas comme tu le souhaiterais, quand le service n'est pas aussi à point qu'il le devrait et que tu gagnes quand même ton match, ça veut dire que tu as atteint un autre niveau.
Cela dit, Alex, c'est vrai que, oui, là, on excuse peut-être en ce début de saison ses premiers matchs de Félix, mais si on a la même discussion autour de l'Omnium Mac National, ce ne sera pas bon signe. Parce que lorsque tu es sixième, septième, il faut que ces matchs-là deviennent des automatismes. Et si Félix veut un jour gagner un grand chelem, qui, on le rappelle, se déroule sur 15 jours, ne peut pas se permettre d'avoir des matchs de premier tour qui durent 2 heures. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus.
Oui, ça, c'est un point. En effet, si tu sais, pour enchaîner des matchs aussi longs, c'était tellement long pour un match de 2-7. Là. Comme tu disais, Hugues, seulement le premier set, il y a des matchs qui durent moins longtemps que ça. Bon, en même temps, quand on regarde ce qui s'en vient pour lui, a priori, il avait quand même un tableau assez favorable, là, Félix, et c'est encore le cas. On s'attend à quoi de lui contre Cerundolo aujourd'hui et peut-être même contre Urkacz, il fallait qu'il passe Cerundolo aujourd'hui.
Ben, moi, je fais un petit point quand même. On doit quand même le benchmarker, le comparer au top 10 actuel et aux jeunes joueurs actuels. On ne peut pas exclure de l'équation Alcaraz, qui est peut-être un phénomène, une exception, là, qui est monté numéro 1 rapidement, qui va probablement, enfin, qui a des chances de reprendre ce numéro 1-là s'il gagne Indian Wells. Et il est bien parti pour ça. Je mets Holger Rune dans la balance aussi. On doit mettre... comment dire, Félix dans ce pool de joueurs-là qui semblent plus dominants dans leur premier, deuxième tour souvent. Ils arrivent avec beaucoup de prestance. Genre, c'est impossible que je perde ce match-là. Donc, il faut voir Félix dans ce contexte-là. Moi, ce qui me plaît de Félix, puis qui n'est pas toujours bon dans le sport, vous allez voir où je m'en vais avec ça, c'est un gars qui réfléchit beaucoup, j'ai l'impression. C'est un gars qui va peut-être douter à l'occasion, puis c'est un signe d'intelligence aussi en même temps, et qui va faire en sorte qu'il va trouver des solutions. Et moi, je parierais plus sur le long terme sur un joueur comme Félix, que comme Holger Rune ou même Alcaraz, qui sont montés très vite à 18 ans, 19 ans. Là, tout d'un coup, ça va les rattraper. Coudonc, qu'est-ce qui se passe là? Je pense à Gustavo Kuerten aussi, qui était monté très vite et qui n'a pas réussi à le maintenir après un certain temps. On revient il y a une vingtaine d'années, 22, 23 ans. Donc je pense que ce fait que Félix soit un gars qui peut peut-être douter à certaines reprises, qui se questionne, va compliquer certaines choses qu'un gars qui a juste une chose en tête, qui ne pense pas trop et qui y va, pourrait accomplir des choses plus simplement, surtout dans ce genre de match de premier tour. Cela dit, je pense que contre Cerundolo aujourd'hui, 32e mondial, fiche de une victoire, aucune défaite pour Félix, ça va bien se passer. Moi aussi, je vois un tableau intéressant pour lui, puis je rêve déjà d'une demi-finale Alcaraz-Félix. Félix étant 3 victoires, aucune défaite contre Alcaraz, donc tout de suite, ça vient remettre en contexte ce que je viens de dire. Il peut battre Alcaraz, qui a été numéro 1 mondial déjà. Donc, je pense que Félix, encore, comme je le dis souvent, match après match, souvent il prend un momentum et il joue de mieux en mieux dans un tournoi. Donc je le vois passer là, quelques tours encore et pourquoi pas une demi-finale contre Alcaraz.
Mais le truc dont tu parles de Félix, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on l'a vu aussi dans son match douter, parler à ses entraîneurs, ce qui fait
exact.
Peu. Tu sais, c'est pas très banal chez Félix. Mais est-ce que c'est un défaut, c'est une qualité ou c'est un peu des deux?
Moi, je pense qu'ultimement, sur le long terme, c'est une qualité parce qu'il n'y a pas cette naïveté-là, cette insouciance qu'un jeune a, très, très jeune, qui gagne, puis qui ne se pose pas de questions. Oui, il va, puis c'est tout. Puis tout d'un coup, ces gars-là vont peut-être moins trouver de solutions à terme. Tandis que Félix, j'ai l'impression que ses capacités tennistiques, ses capacités athlétiques, mais ses capacités intellectuelles aussi lui donnent, pour moi, beaucoup de longévité. Je vois un Félix, effectivement, à 22 ans, qui a encore 4, 5, 6, 7 bonnes années devant lui pour arriver dans le top 3. Donc, ça m'inquiète plus ou moins. Mais encore une fois, c'est ce qui fait que des fois, on le sent, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il n'y a pas l'œil du tigre, c'est pas un tueur, c'est pas un méchant. » Mais pour moi, ultimement, je pense que ça va être une qualité pour sa carrière.
Mais il reste que moi, je l'ai vu, l'œil du tigre. T'sais, on le voyait serrer le point. En tout cas, dans un match spécifiquement-là, c'est pas à défaut de s'être battu. Ça a été compliqué, mais il s'est...
C'est une bagarre, ah oui.
Il s'est battu. Ouais. Espérons, cela dit, que ce sera pas trop coûteux pour ce qui s'en vient et ce long match-là. Le forfait en double de l'autre équipe est probablement aussi une bonne nouvelle parce que ça lui a donné du repos. Mais oui, un quart de finale contre Alcaraz, c'est très possible. Et de la façon dont il a joué contre Medvedev, il peut arriver avec une certaine confiance contre un ancien numéro 1 mondial. Là, et puis, s'il fallait qu'il passe Serendulo, ce serait Urkacz avant, mais il a une fiche gagnante contre Urkacz. Alors, Hugues, tu voulais
ajouter quelque chose? Un dernier point aussi pour rebondir sur ce que Nicolas disait sur la qualité du jeu en ce moment. Oublions pas quand même que Casper Ruud, deuxième joueur mondial, est quand même sorti tôt dans ce tournoi-là. Tsitsipas qui se fait sortir aussi. Taylor Fritz qui a eu quelques matchs compliqués, notamment contre Ben Shelton où il a échappé un set. Donc effectivement, le niveau pour un Masters 1000, c'est jamais simple. C'est jamais simple.
Il n'y a plus de match donné, les gars. C'est pas compliqué. Il n'y a plus de match donné.
Mais tu sais, ce que tu disais, Nico, en début d'émission, c'est quelque chose qu'on dit depuis très souvent, depuis très longtemps, c'est-à-dire c'est que, le niveau de jeu entre un 10e mondial puis un 150e, il est beaucoup plus proche que ce qu'on peut penser. La différence entre les deux, c'est peut-être même pas le talent, c'est plus la constance dans les résultats puis de le faire semaine après semaine. Mais je pense que Alexis Galarno joue contre Félix demain matin. Ça se peut qu'Alexis le batte, puis Félix, il sera peut-être pas si surpris que ça. Bon, il serait pas favori a priori, mais c'est pas impossible. T'sais, on dit souvent, au hockey, ça se peut que Nick Suzuki ait un meilleur match que Connor McDavid un soir donné. Là. Alors,
les gars, regardez juste le dernier exemple qui me vient en tête, c'est l'Omnium Banque Nationale. Rappelez-vous qui a gagné. On s'entend que c'était pas lui qui était supposé gagner, mais il a quand même battu des gars qui étaient dans le top 10. Il a rien donné, puis... Ultimement, c'est ce qui est chouette du tennis, parce que si les matchs de premier, deuxième, troisième tour étaient déjà décidés d'avance, je pense que notre intérêt serait un peu moindre.
Ah ben ça, c'est 100% vrai. C'est pour ça qu'on écoute les matchs. Si on savait qui allait gagner d'avance, d'une part, on serait tous riches, parce qu'on miserait sur ces matchs-là. Et d'autre part, c'est ce qui fait qu'il y a un intérêt. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on revient avec ce qui s'est passé du côté des femmes.
Le restaurant Monem, situé au cœur de l'hôtel Montville, vous ouvre ses portes tous les matins, du lundi au dimanche, et tous les soirs, du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Appréciez également un lit king size, un Wi-Fi haut débit, une vue époustouflante sur Montréal, ainsi que 2 tapis de yoga Lolé à disposition.
Je vais te dire, au début de l'émission, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de la semaine, depuis le début du tournoi à Indian Wells. Et il y a eu beaucoup d'actions du côté des femmes également. Commençons avec Bianca Andreescu. Elle aussi, ça a été relativement compliqué, très compliqué contre Peyton Stearns. Quoi penser de ce match-là, Nico?
Un match qui a vraiment pas été simple, les gars, on va se le dire, malgré la foule canadienne qui était bien au rendez-vous pour encourager Bianca dans les estrades. Ça n'a pas été simple, mais je suis content que Bianca traverse des matchs comme ceux-là parce que ça nous prouve que, un, son corps tient. Ça, je pense que c'est pas mal la priorité du côté de Bianca. Et de deux, elle a ce qu'il faut pour revenir dans ce genre de match qui n'est pas évident. Évidemment que je suis sûr qu'elle, elle aurait préféré un match peut-être plus simple, plus court. Mais je suis satisfait en tant qu'amateur de tennis, en tant qu'amateur de Bianca aussi, de voir qu'elle peut tenir le coup dans ce genre de match qui n'est pas évident. Pour moi, oui, ça a peut-être été un peu décevant sur les niveaux du jeu, mais pour le résultat et la manière dont ça s'est déroulé, pour moi, c'est du positif ce que Bianca a fait.
Hugues, ton analyse de ce match-là?
Oui, pareil. Je pense qu'elle démontre encore une fois qu'elle a le feu, qu'elle a envie de compétitionner, qu'elle est redoutable dans des moments plus difficiles. Elle trouve des solutions Elle a un jeu qui comporte plusieurs armes, Bianca. Donc, j'étais heureux qu'elle trouve une solution, évidemment. Et évidemment, on a aussi, effectivement, comme disait Nico, senti un super appui de la foule pour Bianca, qui, oublions pas, est la championne 2019. Hein, c'était son premier grand titre à Indian Wells en 2019. Donc, elle joue avec beaucoup d'émotion, je pense, sur ces terrains-là. Donc, oui, une solution, mais j'ai surtout hâte de voir son match contre Iga Świątek aujourd'hui, qui va être un des matchs vedettes de la journée. On va en parler un petit peu plus tard, là, mais il faut, moi, je veux voir le baromètre, là, d'où est vraiment, vraiment Bianca, puis est-ce qu'elle peut compétitionner avec les top 10. Mais belle performance pour trouver une solution là, à son match contre l'Américaine.
Ben voilà, on aura le vrai test, là, parce qu'on va savoir de quel bois elle se chauffe. Et bon, Świątek joue bien depuis le début de l'année. Si elle fait ne serait-ce qu'une bonne performance, ce sera rassurant, une victoire encore mieux. Moi, je suis allé la voir jouer en double au début de la semaine et j'étais curieux parce qu'elle ne joue à peu près jamais en double. C'est vrai. Et elle joue une fois par année ou à peine. Et j'étais curieux de voir comment elle allait bouger sur le terrain. C'est surtout ça que je voulais voir. Et je trouvais en début de match qu'elle était relativement à l'aise. Toi, Hugues, là, c'est toi qui as les meilleures connaissances parmi nous. Là. Comment tu as trouvé son niveau de jeu? Au-delà du fait que ça a été compliqué, est-ce que tu trouvais qu'elle avait l'air d'une joueuse en santé sur le terrain?
Oui. Tu sais, on n'a pas senti de moment de drame ou d'inquiétude, de blessure. Déjà, ça, on le sait, c'est un signe pour Bianca. C'est arrivé toute sa carrière, même chez les juniors, c'était toujours très fragile, on sentait. Et là, je ne l'ai pas senti fragile durant ce long match de 3-7 qu'elle a gagné. Donc, non, moi, je suis assez rassuré. On s'en est parlé en fin d'année. Elle a l'air un peu plus fit aussi. Je pense que c'est une bonne chose. Non, je pense qu'elle est bien. Je pense qu'elle a besoin d'aligner des matchs contre des joueurs du top 50, top 20 et plus. Et c'est là qu'on va voir quelle saison on peut avoir pour Bianca. Mais ça semble bien parti.
Oui, c'est ce qu'elle disait aussi. Là. Elle disait qu'elle se sentait quand même bien sur le terrain. Pas de grosses blessures comme elle est connue dans le passé. Là. Alors, c'est cohérent avec l'analyse que tu en as fait. La dernière fois qu'elle a joué contre Świątek, c'était en mai 2022. Ça se passait en Italie à Rome, exactement. Et c'est un 7-6-6-0, alors un match en deux temps.
Un drôle de pointage.
Un drôle de score. En effet, à quoi tu t'attends pour ce match-là? Est-ce que tu, en toute honnêteté, est-ce que tu lui donnes des chances contre Świątek, Hugues?
Écoute, Świątek est impressionnante en ce moment. Plusieurs sets gagnés à 0 ou à 1. Là, on rigole un peu sur notre fil entre nous. Là. C'est un enchaînement de bagels ou de frites. Là. C'est 6-0 ou 6-1 souvent. Elle a une défaite contre Krejcikova la semaine dernière ou il y a deux semaines qui montre qu'elle n'est pas invincible. Mais Iga Świątek, en ce moment, elle est repartie sur une lancée vraiment impressionnante. Là. Donc, mais je ne pense pas que Bianca va perdre 6-0 ou 6-1 contre Świątek. C'est pas le. Bianca peut compétitionner au plus haut niveau, on le sait. Donc, je m'attends à un match serré. Je pense que Świątek va gagner ce match-là, mais peut-être un 2-7 serré, là, quelque chose comme un 6-4, 6-4, 7-5, 6-4, ça ne me surprendrait pas. On verra.
Nico, à quoi est-ce que tu t'attends pour le match de contre Świątek?
Ça reste la meilleure chose au monde, vous l'avez bien décrit. Mais je suis un éternel positif, les gars, puis je ne peux m'empêcher de penser ce qui arriverait si jamais. Si jamais Bianca sort la partie, si jamais Bianca joue comme elle a joué en 2019, ce qui se peut, là, Bianca, c'est une championne Grand Chelem, elle peut jouer de l'immense tennis. Peut-être que Świątek se dit, la fille est 36e, revient une blessure, ça va être peut-être plus simple. Mais si Bianca décide de jouer de la manière dont elle est capable de jouer, les gars, ça sera pas évident, puis je pense aussi que Bianca, malheureusement, va s'incliner. Mais si jamais, imaginez la dose d'adrénaline qu'elle pourrait avoir pour la suite, non seulement du tournoi, mais de la saison, ce match-là, pour la saison 2023 de Bianca, pourrait être névralgique.
En tout cas, c'est un match-up qui fait saliver, les gars. Là. Puis je vous le dis, c'est un marquee match. Là. Elles vont être sur le central à 18h, heure de Californie. Donc, tout juste avant le match de Carlos Alcaraz contre Grigsport, le d'un Irlandais. Donc, moi aussi, écoute, évidemment, on souhaite une victoire de Bianca, mais je suis très curieux de voir ce match parce que Bianca étant la compétitrice qu'on connaît, elle doit avoir très hâte à ce match-là parce qu'effectivement, ça pourrait être un déclencheur là, pour cette année.
Et Nico, toi, tu as écrit un bon papier sur Bianca Andreescu. Oui. Je te laisse en parler puisqu'on est sur le sujet. De quelle nature était cet article-là et où est-ce qu'on peut le trouver?
Oui, bon, sur le site de la presse.ca, voilà, ça c'est voilà. Le plug est fait. Je lui ai parlé, parce que j'aime évidemment parler à Bianca Andreescu, je pense que j'ai un bon lien avec elle. Je lui parle à peu près à chaque trimestre, là, avant, à peu près à chaque moment de la saison, on change de surface. Puis il y a trois sujets qu'on a abordés, puis en fait, c'est trois réponses qu'elle m'a données que je trouvais extrêmement intéressantes, sur lesquelles j'ai envie de vous entendre, les gars. Premièrement, je lui ai demandé au début de l'entretien, tu reviens de blessure en Thaïlande, tu étais à ça de remporter le titre, ce tournoi était le tien, tu t'es blessé. Un, à quel point tu es tanné d'être blessé? Puis deux, à quel point tu es tanné qu'on t'en parle? Puis elle m'a répondu, être blessé, c'est pas ça le pire, parce qu'en tant qu'athlète professionnel, on fait le deuil qu'on sera jamais à 100%. Le pire, c'est quand ton corps lâche, mais que ton mental est là, puis que tu sais que tu joues du bon tennis. Puis ça, je trouvais ça extrêmement fascinant parce qu'imaginez les gars quand tu sais que tu es en pleine possession de tes moyens, mais que ton corps décide, lui, de t'abandonner. Ça doit être un feeling épouvantable. Puis plus souvent qu'autrement, ça arrive pour Bianca. Et donc, sur ce même sujet, on a continué à parler. Puis, elle ne trouvait pas le mot pour dire ce qui avait changé depuis son dernier titre en 2019, Indian Wells. Elle disait, j'ai maturé, je prends les choses une bouchée à la fois. J'ai dit, est-ce que le mot « patience » t'évoque quelque chose? Elle dit, c'est le mot que je cherchais. Le mot « patience » pour elle est de mise parce qu'elle sait qu'elle est capable de jouer de l'extraordinaire tennis, mais elle sait aussi que pour revenir au quatrième rang mondial, où elle a déjà siégé en 2019, ça va prendre du temps. Et je trouve qu'à 22 ans, on sait que Bianca, c'est une fille émotive, une fille qui veut gagner à tout prix, mais de voir qu'elle sait que ça va prendre du temps, pour moi, c'est un signe de maturité exceptionnelle. Secondo, puis en fait, tiercement, elle m'a parlé en tout fin d'entretien de ses objectifs. Tu sais, elle dit, présentement, un peu comme on en avait discuté il y a quelques mois, son but, c'est d'avoir du plaisir, d'être en santé. Mais pour la première fois, puis corrigez-moi si je me trompe, elle n'a pas parlé d'objectifs concrets depuis un sacré bail, puis elle me l'a dit mot pour mot, ce que je vise, c'est le top 10. Et ça, je trouve que d'avoir cette affirmation-là, maintenant, alors qu'elle joue de l'excellent tennis, qu'elle est de retour sur les rails dans un tournoi qu'elle connaît, d'enfin pouvoir mettre le doigt sur ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire revenir dans le top 10, pour moi, c'est un signe de progrès chez Bianca Andreescu.
Ben 100%, et c'est intéressant qu'elle ait été aussi ouverte avec toi, Nico, parce que, comme tu le dis, Bianca, c'est pas la fille, en tout cas dans les dernières années, qui a eu tendance à s'ouvrir beaucoup. Alors, c'est un magnifique travail de ta part. Hugues, je te laisse commenter cet article-là de Nico.
Oui, ben moi, j'aime toujours les insights que Nicolas va chercher. Il devient tranquillement Nicolas Richard. Notre cher Nicolas, un des meilleurs journalistes de tennis au Québec, peut-être le meilleur en ce moment, par sa capacité à aller chercher la vraie histoire de l'athlète. Donc, autant pour les athlètes olympiques, parce que Nico touche plusieurs sports, mais nous, pour le tennis spécifiquement, c'est du très, très bon travail. Puis effectivement, Bianca est quelqu'un d'assez réservé. Je pense qu'elle vit difficilement ces situations-là. Quand on a fait le tournage de Game 7 Canada à Glasgow, elle s'est un peu effondrée en larmes au début parce qu'on lui demandait quel est l'héritage que tu souhaites laisser aux joueuses de tennis au Canada. Et toute sa carrière a été faite de très grands hauts, mais de grandes déceptions et de bas aussi. Puis je pense qu'elle voit les années passer, puis elle est confrontée à ça maintenant. Elle se fixe des gros objectifs. Revenir top 10, on sait qu'elle peut le faire au niveau de son jeu, mais c'est une situation là où elle s'ouvre un petit peu plus, elle prend de la maturité, comme on disait, et ça la rend de plus en plus intéressante, Bianca. C'est une fille complexe, je vais le dire comme ça, et Nico a bien été chercher cette complexité-là de l'athlète.
Alors, intéressant. Excellent travail, Nicolas Richard. Une fois de plus, ça nous fait toujours plaisir de parler de ton travail quand c'est pertinent pour l'émission. Bon, Bianca, elle n'était pas la seule Canadienne là-bas. Il y avait également, en fait, il y en avait d'autres. Il y en a quelques-unes même. Parlons de Leila Annie Fernandez, messieurs. Ça a été une entrée en matière intéressante contre Navarro. Son match de deuxième tour, un 6-2, un 6-4, le genre de match qu'on attend contre une joueuse qui était beaucoup moins bien classée qu'elle.
Oui, ça, on aime ça. Un petit 2-7 bien plié, bien mené par Leila Fernandez. Une Leila qui est en forme en ce moment. C'est excitant qu'elle passe ce premier tour-là. En fait, c'était le deuxième tour. Elle avait un bail au premier. Et ça lui donne la chance d'affronter à nouveau Caroline Garcia, cinquième mondiale, qui l'a battue il y a quelques semaines dans un match extrêmement serré, 7-6, 7-5 ou 7-5, 7-6, là, mais un match extrêmement serré. Et Leila aussi est une joueuse intelligente, acharnée, et je suis très content qu'elle ait cette chance de se frotter à Garcia à nouveau, qui est une joueuse qu'on le sait, est exceptionnelle, mais peut douter aussi. Donc, j'ai très hâte à ce match-là. Quelle journée de tennis on a encore, les gars, je le dis, là, on a trois matchs de Canadiens aujourd'hui. Il y a Félix qui joue, il y a Bianca et il y a Leila. Je pense que Leila va nous faire une belle performance aujourd'hui. Et je pense que dans ces deux matchs de féminins-là aujourd'hui, qu'on va avoir au moins une victoire du côté des Canadiennes.
Est-ce que c'est la revanche? Parce que bon, tu dis oui. Que ça avait été un match âprement disputé. C'était en Australie, à Melbourne. Oui. Est-ce que c'est la revanche pour Leila Annie Fernandez contre Garcia?
Oui. Et c'était seulement la première fois qu'elle jouait contre Garcia. Et cette défaite, vraiment, dans un match très, très chaud, là, 7-6, 7-5, elle a appris des choses sur Garcia. Donc, je pense qu'elle va arriver avec des meilleures armes encore que lors de son premier match. Donc, j'ai bien hâte de voir quelle performance elle va nous sortir. C'est le premier match sur le stadium, sur le troisième show court à Indian Wells aujourd'hui. Et on va pas rater ça. Donc, ça va commencer vers 2h heure de Montréal, là, dans un peu plus d'une heure ici.
S'il fallait qu'elle batte Garcia, elle égalerait sa meilleure performance à ce tournoi-là, qui était l'année passée, un quatrième tour. Pas autant de succès pour Rebecca Marino. Cela dit, elle n'aura fait que passer en simple, Hugues. Et honnêtement, je lui ai parlé après le match et elle n'était tout simplement pas de taille dans son match de premier tour.
Ouais, ben écoute, encore une fois pour Rebecca, c'est un WTA 1000. La compétition peut être très très dure lors des premiers tours. On va se le dire aussi, Bianca, c'est-à-dire Rebecca va aller chercher des premiers tours, deuxième tour, mais elle en a pas passé beaucoup là dans des tournois de très haut niveau. Mais je pense que c'est quand même bien qu'elle réussisse à se maintenir dans un classement là autour de la 70e place. Mondiale. Elle a des entrées directes dans les tableaux de Grand Chelem avec ça, dans les Masters 1000 aussi. C'est pour ça qu'elle travaille encore. Donc, c'est pas si décevant que ça. Elle va frapper contre des joueuses plus fortes qu'elle. Elle est quand même en fin de carrière, mais aucune grande déception pour Rebecca. Et j'ai hâte de voir la suite de sa saison.
Et pour ceux qui ne regarderaient que le classement en se disant « Ouais, ben Rebecca, elle était mieux classée que Vondrousova », ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vondrousova, c'est une ancienne finaliste à Roland-Garros. C'est une excellente joueuse également. Ouais. Et c'est aussi une fille qui avait une fiche gagnante contre Rebecca avant ce match-là. Et je lui ai parlé après le match, comme je le disais, et ce qu'elle m'a dit, c'est que elle a l'impression que le terrain et les conditions cette journée-là favorisaient un peu plus le style de jeu de Vondrousova. Mm. Je pense qu'avec son gros service, elle va préférer un terrain un peu plus rapide, ce qui n'est pas nécessairement le cas cette année à Indian Wells. Oui. Nico, que penser de Rebecca?
Vous le savez, les gars, je suis un grand amant de l'histoire de Rebecca, puis on l'est tous, là. Et c'est correct de dire que nos attentes sont modérées parce qu'ultimement, c'est ce qu'elle souhaite. Faire des premiers tours, ramasser des points, faire un peu d'argent, je le comprends. Mais à un moment donné, pour garder ses places, justement, Hugues t'en parlait, ses places en grand chelem, ses places de premier tour, faudra qu'elle gagne des matchs. Oui. C'est correct, là, l'histoire, puis c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, puis je pense qu'elle va être la première à l'assumer, puis Alex, l'entrevue que tu as faite avec elle, je pense qu'elle pensait à ça aussi en même temps. Les résultats devront venir pour Rebecca parce qu'elle est capable de le faire, mais s'incliner constamment en premier tour, ce ne sera pas suffisant à moyen et long terme. Il faudra que la machine se mette en marche pour la Canadienne plus tôt que tard, je pense.
Ouais, on verra dans son cas à elle qu'est-ce que ça donnera. Mais effectivement, si elle veut continuer de monter au classement, il faudra qu'elle ait des victoires. Je pense qu'elle est rendue. Là, on se satisfaisait de qualification dans des tournois du Grand Chelem. On se satisfaisait de rentrer dans des tournois. Là, la prochaine étape, c'est d'avancer dans ces tournois-là. Et je pense que Rebecca, c'est définitivement ce qu'elle souhaite aussi. Enfin, meilleure chance la prochaine fois pour Rebecca Marino. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de Canadiens dans les gradins. En fait, à peu près à chaque match, il y a beaucoup d'appui canadien dans les gradins. Oui. On pourra en parler un peu plus tard là, de la raison. Nico, je te lance parce qu'il y avait une autre Canadienne, puis je voudrais pas qu'on l'oublie, mais Gabriela Dabrowski également est en action depuis le début du tournoi. Et à quoi tu t'attends de ta joueuse préférée de double?
Pour Gabriela Dabrowski cette année, les gars, l'objectif est simple, c'est un grand chelem. Elle a tout fait ce qu'elle avait à faire sur le circuit de la WTA. Elle a gagné les gros tournois. Elle a gagné avec plusieurs partenaires. Maintenant, oui, elle a un titre en double mixte, si je ne m'abuse, mais là, on vise le grand chelem en double féminin. Oui, ce ne sera pas évident parce qu'il y a Pegula, puis il y a Coco Gauff, il y a Krejcikova qui est là aussi, qui connaît encore une bonne saison. Mais pour elle, c'est de la préparation pour un grand chelem. C'est l'objectif ultime. Là, c'est la terre battue qui s'en vient, la surface qu'elle déteste le plus, j'en conviens. Mais pour Wimbledon, pour le US Open, c'est un titre en grand chelem qu'on vise. Et parti comme c'est là, les gars, j'aime leur chance. Elles sont encore, elle et Gigi Olmos, dans les meilleures joueuses de double au monde. Souhaitons-lui pour Bianca, parce que ce serait tellement chouette pour une fille tellement sympathique, puis une fille qui a tellement de talent, dont on parle pas assez, mais dont on parle si souvent à l'émission régulièrement. On lui souhaite du plus profond de nos cœurs.
Ça fait le tour pour ce qui s'est passé à Indian Wells. On pourra y revenir un peu plus tard, messieurs, dans l'émission, pour voir l'envers du décor. Mais avant, je veux qu'on puisse parler, Hugues, t'en parlais tout à l'heure, parce qu'Alexis Gallardo et Gabriel Diallo vont être à Montréal pour un tournoi ITF, mais ils étaient à Puerto Vallarta la semaine passée. Les deux n'ont pas avancé plus qu'il faut dans le tournoi. On aurait pu avoir un match entre les deux, ça n'est malheureusement pas arrivé, mais Alexis Arnaud lui a perdu en ronde des 16 de ce qui était au deuxième tour et Gabriel Diallo lui a perdu au premier tour. Mais on pourra les voir à Montréal cette semaine.
Oui, on est quand même chanceux de voir deux joueurs de très bon niveau challenger. On sait que tant Gabriel, évidemment, qui a eu des victoires, dont une à Granby, des demi-finales, que Alexis qui a fait des quarts de finale aussi l'an passé, c'est deux joueurs qui sont dans les meilleurs joueurs du circuit Challenger. Je pense que Gabriel était sixième favori, d'ailleurs, la semaine dernière. Il a perdu au premier tour, malheureusement. Alexis a passé quelques tours, mais qu'on puisse les voir à Montréal. Pour ceux qui ont envie de venir, là, c'est gratuit, premièrement. On a accès au terrain. On s'assoit littéralement sur le terrain, sur le côté du terrain, pour voir ces matchs-là. Avec des joueurs de niveau top 200, ça vaut vraiment le coup. Donc, venez faire un tour au stade IGA, là, ceux qui ont envie de voir du tennis de très, très haut niveau. Et pourquoi pas un de nos deux Québécois qui irait remporter ce tournoi-là, qui joue au stade Jarry cette semaine. On est vraiment gâtés d'avoir ce niveau de tennis-là. Et je redis ce que Richard Quirion de Tennis Canada nous avait dit en début d'année. C'est une année exceptionnelle au Canada. On a 23 tournois professionnels, évidemment. Il y a l'Omnium que tout le monde connaît, mais il y a plusieurs autres tournois de niveau Challenger, de niveau ITF qui ont lieu. Donc, profitez-en parce qu'on va avoir du gros tennis au stade IGA cette semaine.
Avant qu'on aille à la pause, je disais que ça avait fait le tour pour Indian Wells, mais je vous ai menti parce qu'il y a un autre joueur qu'on suit du coin de l'œil qui est pas tout à fait un Canadien, mais presque. Ben, en fait, il est Canadien, mais il ne représente pas le Canadien. Il y a Alejandro Tabilo, on en parlait la semaine passée, qu'il fallait le surveiller. Il a bien fait dans ce tournoi-là, le natif du Canada là, qui représente le Chili, parce qu'il a battu... Ben, d'abord, il s'est qualifié pour ce tournoi-là et par la suite, il a battu Maxime Cressy, qui est pas le dernier vu, est venu et il a battu Jordan Thompson. Bon, Jordan Thompson, c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même un gars qui avait battu Tsitsipas et mon fils dans ce tournoi-là. Alors, c'est une grosse victoire pour ce Canadien qui n'a plus le petit drapeau à côté de lui, mais c'est quand même un Canadien qu'on peut garder à l'œil.
Complètement. La réussite canadienne, c'est un peu comme on le disait tantôt, la semaine passée, le Raducanu masculin. Puis les gars, on parlait tantôt, juste une brève parenthèse là, sur la journée d'aujourd'hui. Hugues parlait des affrontements du jour. Là. Oui, il y a les Canadiens et les Canadiennes, mais moi, le duel qui m'intéresse le plus, c'est celui de 15h30-ish. Paula Badosa contre Rybakina. Les gars, ça va faire des flémèches. Ouais. L'ancienne championne Indian Wells qui revient avec un super niveau de jeu. contre la finaliste en Australie. C'est vraiment un duel intéressant entre deux filles qu'ultimement, on va se le dire, les gars sont deux top 10.
Ouais, ben effectivement, je suis content, Nico, que tu reparles de ce calendrier, de cet agenda pour aujourd'hui. C'est à saliver pour tout amateur de tennis. On a Stan Wawrinka contre Roger Rooney aussi qui vont jouer après-midi. On sait que leur rencontre plus tôt cette année avait fait des flamèches où Wawrinka, après sa défaite, avait dit à Roger Rooney, tu devrais te calmer un peu, en gros, au moment de serrer la main. Ça risque d'être bon. Et un duel tout anglais entre Andy Murray, Sir Andy Murray, qui connaît encore un tournoi fabuleux avec des victoires et il poursuit sur sa belle lancée du début d'année en Australie, qui joue contre un des meilleurs jeunes anglais, Jack Draper, le grand gaucher, qui avait bien performé à Montréal l'été passé. Donc, Murray contre Jack Draper aussi après-midi. C'est une journée, tout est droit, je dirais, là, ça va être vraiment intéressant là, de suivre cette journée du lundi à Indian Wells.
D'ailleurs, Andy Murray, qui nous en a mis plein la vue au premier tour, là, encore un long match, un match où il nous fait vivre toutes sortes de choses, même au point où j'étais pas dans ce match-là parce que je sortais d'une autre rencontre, mais j'ai vérifié le score et je me suis dépêché d'aller voir la fin du match parce que, comme tu le dis si bien, Sir Andy Murray nous en met plein la vue. Nico, tu voulais ajouter quelque chose?
Rapidement sur Murray, les gars, ça ne fait aucun... Moi, j'en reviendrai jamais, là, chaque semaine. Remarquez la manière dont il marche entre les points. Il ne plie pas ses genoux. Il se déhanche de droite à gauche parce que son corps ne tient plus, les gars. Et il gagne des tournois il gagne des matchs dans un Masters 1000.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas un joueur à qui je souhaite plus un titre cette année que Sir Andy Murray.
Ouais, effectivement, s'il pouvait remporter un dernier titre, un dernier, peut-être même plus, là, ce serait tellement, tellement une belle histoire. Mais si on va faire une courte pause et dans le dernier bloc de l'émission, on va inverser les rôles un peu. On va revenir, on va parler d'Indian Wells. Je vais vous parler de ce que j'ai pu constater là-bas.
Le restaurant Monem, situé au cœur de l'hôtel Montville, vous ouvre ses portes tous les matins, du lundi au dimanche, et tous les soirs, du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française. Voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'hôtel Montville et profitez d'une offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Appréciez également un lit king size, un Wi-Fi haut débit, une vue époustouflante sur Montréal, ainsi que 2 tapis de yoga Lolé à disposition.
De retour au Radio Podcast sur la ligne, le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs et en rediffusion. Messieurs, pour le dernier bloc de l'émission, on va inverser un peu les rôles parce que je vais vous parler de mon expérience, de comment ça s'est passé là. Et je vais vous laisser aussi me cuisiner, me questionner sur comment ça s'est passé là-bas. Alors, Hugues, je vais te laisser prendre le crachoir.
Ben écoute, Alex, j'ai tellement content de te voir prendre la route de Indian Wells parce que, encore une fois, on démontre à quel point le podcast Sur la ligne est le leader dans le domaine pour tous les fans de tennis au Québec, au Canada. On va couvrir plusieurs tournois cette année en direct, Masters 1000 et autres. Donc, c'était vraiment bien qu'on ait un collaborateur sur place pour profiter de Tennis Paradise. Parle-nous un peu là, du feeling quand on arrive là-bas parce qu'on sait que c'est un site qui est tout simplement merveilleux en termes de situation géographique. Mais donc, t'es arrivé à Los Angeles, tu t'es rendu à Indian Wells par la suite, c'est bien ça?
En fait, je suis arrivé à Palm Springs directement parce que j'ai fait un vol de Vancouver qui était à Palm Springs. Je pense qu'il n'y a pas de vol direct de Montréal qui se rendait à Palm Springs. Mais c'est, comme tu le dis, le paysage est absolument fabuleux. Dans la même photo, et moi, c'est ça qui m'a marqué. Là, je pense pas que j'ai vu ça ailleurs dans ma vie. Là, tu as des palmiers et de la neige. C'est de la neige au sommet des montagnes et des palmiers. Bon, le panorama, il est complètement spectaculaire. Là, c'est désertique, mais il y a quelque chose d'absolument fabuleux. Là, c'est pour les photos, on le voit à la télé, là, mais quand tu le vois de tes yeux vus, c'est tellement autre chose. Le site là-bas, ouais. écoute, Je sais qu'on dit Tennis Paradise, mais on n'est pas loin de ça. Ça, c'est certain. Ce n'est pas nécessairement prétentieux. Il est beau, le site au Parc Jarry. Il est absolument fabuleux, mais il y a quelque chose de spécial aussi à Indian Wells. Là. Le site, il est vraiment beau.
Alex, il y a combien de terrains sur le site de court? Je crois qu'il y a 3 show courts en même temps. Alors, on parle de Stadium 1, 2, 3. Alors, parle-nous un peu là, des terrains là-bas.
Je n'allais pas compter, mais il y en a pas loin d'une vingtaine, je crois, de terrains. Mais ce qui m'a fasciné, par contre, parlant des terrains, c'est les terrains de pratique. Tu sais, à l'Omnium Banque Nationale, on est près des joueurs et on peut voir les joueurs pratiquer. Il y a ça aussi, mais je dirais puissance 10 sur le site de Indian Wells. Il y a des passerelles où tu peux passer carrément au-dessus des joueurs. Tu es très, très proche des joueurs et il y a beaucoup de terrains. Il y a peut-être une dizaine de terrains de pratique et on est hyper proche. Il y a des couloirs pour qu'on puisse voir vraiment tous les joueurs de près. Il n'y a presque pas d'endroit où tu ne peux pas voir les joueurs de près. Et ce qui m'a fasciné aussi, c'est qu'il y a un endroit comme une espèce de parc gazonné où les joueurs se réchauffent. Okay? Ils jouent au soccer, font des étirements. Des fois, font simplement s'amuser. Et c'est comme un terrain clôturé. Mais tu es à 2 mètres de... nomme-les, là, Carlos Alcaraz, Medvedev, j'ai publié sur nos médias sociaux une vidéo de Medvedev qui finissait justement de s'échauffer et qui est allé signer, où il faisait son cool-down. Il est allé signer des autographes, mais on est tellement, mais tellement proche. Il y a une proximité qui ressemble étrangement à l'Omnium Banque Nationale. Et puis, honnêtement, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool parce que tu dis, bon, c'est un grand tournoi, c'est un gros tournoi. Et il y a beaucoup d'athlètes qui, des fois, vont prendre la décision de s'entraîner ailleurs, à l'extérieur, sur des terrains, à l'extérieur des infrastructures régulières. Mais ce que j'ai constaté, c'est que pour l'essentiel, la plupart des gros canons s'entraînaient sur le site. Et ça, c'est vraiment, vraiment le fun pour les partisans.
Puis, Alex, est-ce que tu peux un peu revenir sur le climat? Parce que moi, ça me fascine, cette espèce de micro-bulle. Puis j'en parlais avec Bianca lorsque je lui ai parlé, puis elle avait de la misère à décrire parce qu'elle disait « il fait chaud, mais pas trop chaud, mais des fois c'est humide, mais des fois c'est froid ». Fait que, comment tu as perçu ça? Puis en tant que, tu sais, si on se met un peu à la place des joueurs, est-ce que tu penses que c'est un enjeu, l'enjeu météo-climat pour eux là-bas?
Bien, absolument, parce que, bon, la météo, elle est extrêmement changeante. On est dans le désert et en journée, il fait chaud. Je vais donner un exemple. Moi, je ne suis vraiment pas un gars frileux. Et la première journée, et bon, il faisait chaud. Je suis arrivé avec un polo manche courte et j'ai regretté parce que dès que le soleil a tombé, c'était... pas frais, c'était froid. Alors, j'imagine un joueur qui se prépare là, vers 3-4 heures, là, fait son warm-up, et puis arrive sur le terrain, il n'y a plus de soleil ou le soleil est plus bas. Ça peut changer la nature un peu du jeu, ou en tout cas la nature un peu de ta préparation, parce que bon, la température, elle n'est pas la même. C'est pas tout le monde qui joue aussi bien dans la chaleur que dans le froid. Alors, il y a vraiment une grosse différence entre la journée ensoleillée et la soirée aussi, non seulement frais, mais froid. En tout cas, du moins dans les journées que moi j'ai vécues, le soir, c'était vraiment frais. Ça prenait un petit manteau.
Donc, contrairement peut-être au US Open, les joueurs préféraient jouer en journée.
J'imagine que ça dépend des joueurs. Il y en a peut-être qui préfèrent aussi jouer au frais. Il y en a certains qui vont préférer aussi peut-être commencer leur journée un peu plus tard. Ça, pour les joueurs, je ne pourrais pas te dire, mais ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, la température, elle est hyper changeante.
Dernier petit point météo, peut-être. Il avait l'air de vanter pas mal sur quelques sessions. Est-ce que c'est un facteur, tu trouves, sur le cours central?
Sur le cours central, je ne l'ai pas senti, mais sur les cours secondaires, je l'ai senti. On voyait qu'il y avait beaucoup de vent, puis ça pouvait affecter, puis on le sentait bien. Là. Alors, c'est intéressant que tu aies remarqué ça, parce qu'à la télé, c'est peut-être pas évident, mais effectivement, sur les cours secondaires, je l'ai remarqué. Et parlant des cours secondaires, quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que, bon, dans les premières journées, les cours secondaires étaient beaucoup plus remplis que le cours principal. Et par rempli, je ne parle pas nécessairement en termes de nombre de personnes, mais plus en termes de proportion de capacité. Ça me dit, c'est intéressant, parce que ça me dit que c'est des connaisseurs de tennis, probablement, parce qu'on va voir les gens qu'on a le goût de voir. On ne va pas juste sur le central pour voir le match sur le central. On va voir les gens qui nous intéressent. Et ça, j'ai trouvé ça... à un point que, par bout, c'était difficile, même pour les médias, de trouver des endroits pour suivre nos Canadiens parce que les gradins étaient absolument pleins. Et Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup, par contre, de partisans canadiens, des snowbirds de Vancouver qui vont régulièrement à Palm Springs, dans le coin des Indian Wells. Alors, beaucoup de partisans canadiens, et d'ailleurs, on le sentait systématiquement là, sur les cours. Quand il y avait des Canadiens, on avait l'impression d'être sur un cours local.
Tu m'amènes sur la filière canadienne et la filière québécoise de Indian Wells. Effectivement, ça fait plaisir de voir tant de drapeaux canadiens dans les estrades. On se sent tout près de ce tournoi-là, même s'il est l'autre côté du continent. Mais je voulais mentionner quand même ce Québécois qui travaille à Indian Wells depuis quelque temps, Philippe Doré, donc qui est le chef du marketing, qui est vice-président marketing, qui a travaillé pour l'ATP en début de carrière, pour le NASCAR après, et qui est maintenant en charge du marketing pour un des plus grands tournois, peut-être le cinquième plus gros tournoi au monde. Donc, on sent une réelle connexion là, avec ce tournoi-là.
Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, moi, je ne la connaissais pas, cette histoire-là. C'est Jessica Lapinski qui l'écrivait un peu plus tôt cette semaine. Et puis, c'est vraiment le fun de voir qu'il y a des racines québécoises, canadiennes dans un des plus gros tournois au monde. C'est pas compliqué, là. Indian Wells...
Le cinquième grand chelem.
Alors, c'est intéressant. Bon, évidemment, c'est un homme qui étudie aux États-Unis, mais quand même…
Un gars de Québec, un gars de Charlebourg à Québec.
Exact. Alors, ça, c'est intéressant. Vous pouvez lire cet article-là. Et je rappelle aussi, Nico, que ton article sur Bianca Andreescu qui est disponible sur la Presse Plus. Messieurs, ça conclut déjà l'émission. Je vous laisse retourner à votre tennis parce que, bon, il y a toute une journée aujourd'hui à Indian Wells de prévu. Et puis, bien hâte de voir où on en sera la semaine prochaine, comment les Canadiens se sont rendus loin, parce qu'il y en a encore beaucoup en lice. Alors, ça fait beaucoup d'actions à suivre pour nous. Et Nico, comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.